Bonsoir. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir à ce nouveau rendez-vous d'Effraction, cycle de rencontres qui accompagne le festival Effraction tout au long de l'année. Un très grand merci à Bibliocité et aux bibliothèques de la ville de Paris, et notamment aux équipes de la médiathèque Françoise Sagan qui nous accueillent ce soir et inscrivent cette manifestation dans leur semaine de la langue française, dont le thème cette année, c'est le lieu comme personnage. En 2025, nous vous proposons des rencontres autour de la non-fiction littéraire. Et ce soir, nous avons la joie d'accueillir Ananda Devi pour son beau texte « La nuit s'ajoute à la nuit ». Alors, c'est un texte qui est apparu en 2024 aux éditions Stock dans la collection « Ma nuit au musée », dont le principe est d'inviter un auteur ou une autrice de passer une nuit dans un musée. Et Ananda Devi a choisi de passer la nuit à la prison de Montluc, qui est devenu entre-temps un musée, un mémorial. Vous allez d'abord entendre une lecture des extraits de ce texte par l'autrice, qui sera accompagnée aux musiques par Dominique Mahu. Merci à tous les deux pour cette belle proposition. Après la rencontre, Raphaël Leris, qui est aussi la conseillère scientifique de ce cycle, mènera un entretien avec Ananda Devi. Un grand merci à elle également. Et très bonne soirée à tous. Merci.
Bonsoir, merci d'être là. Je vais commencer par le début. Commencer par le vide, c'est toujours ainsi que s'ouvre un texte. On entre dans le lieu des impossibles où s'esquissent plusieurs chemins, où la lumière est si pâle qu'un seul pas est éclairé. Le prochain s'aventurera dans le noir. Mais il ne s'agit pas d'un texte. Ce pas m'entraîne vers une autre réalité, un mémorial de vide et de silence. Ce qu'il me transmet est une injonction. Je dois à mon tour me vider de toute intention, me mettre à l'écoute, ne pas entrer en état d'écriture afin de ne pas gauchir le parcours à peine entamé. Me laisser porter, emporter, transporter, voire fracasser. La vague sera forte, je dois rester debout. Ce pas que je fais par cette nuit venteuse, sous cette pluie violente, franchissant avec une sorte de fermeté la porte, comme si j'écrasais le corps d'un ennemi, ce pas, me semble-t-il, me coûtera. Je ne pénètre pas dans une enceinte, mais dans un corps pulsant de menaces, une matière combustible. Je m'y plongerai, je m'y immergerai. Ceux qui y sont m'attendent. Qui est cette intruse, disent-ils, cette interlope qui n'a nulle part sa place, qui n'appartient à rien, qui n'a pas d'identité parce qu'elle n'en choisit aucune? De quel droit pénètre-t-elle ici, où les différences ont pesé lourd, si lourd qu'elles ont été une lame sombrant sur un cou? Lorsqu'elle entrera ici, elle comprendra que nul masque ne peut nous résister. Nous l'obligerons à nous regarder dans les yeux, à y lire notre condamnation. Celle de quelqu'un qui n'a été d'aucun combat, qui n'a fait preuve ni de grandeur, ni de petitesse. Faire acte, d'une manière ou d'une autre, est une preuve de vie, disent-ils encore, tandis que se contenter d'être spectateur est une mort avant l'heure. Le vrai courage ne vacille pas. Il ne se cache pas derrière des mots, ne peut être étouffé par des murs, même ceux d'une prison, même lorsque la vérité lui déchire la bouche. Entre, viens, ne recule pas, n'hésite pas. Ainsi s'entame la conversation, avant même que j'entre dans la prison. Et dans ce pas seul, ce qui me revient, c'est la sensation que je marcherai ici, dans l'humaine poussière, la vraie, celle constituée par des corps et des êtres effacés. Celle qui me guidera dans ma descente, dans ma quête, et me fera comprendre ce que j'ai toujours tenté de percer, l'énigme du combat entre conscience et violence, mais surtout contre ce qui nous détruit le plus efficacement, l'indifférence. J'avance. Je jette un coup d'œil en arrière comme une prisonnière contemple la liberté pour la dernière fois. Dans le ciel nuageux, une trouée précise, comme une pièce de monnaie. De l'autre côté, un bleu indigo, légèrement strié d'or pâle. Rémanence crépusculaire ou halo d'une lune orangée, je n'en sais rien. Me dit-il de reculer ou de continuer ? Je visiterai une prison, un mémorial, c'était tout. C'est tout, me dis-je à présent. J'entre. Aussitôt, le poids de la prison de Montluc s'installe, tel un oiseau lourd et familier, sur mes épaules. Alors, ce mémorial, pourquoi irais-je si ce n'est pas mon histoire ? Qu'est-ce que cela dit de ce qui m'habite, de mon omniprésente culpabilité ? Je ne suis pas seulement habitée par mes propres peines, mais également par celles de mes parents, de mes enfants. Y a-t-il une balance qui dise « ta douleur ne fait pas le poids face à celle des autres » ? Y a-t-il de vraies et de fausses douleurs ? Chaque être porte sa charge et son silence. Et chaque présence au monde se fonde sur des lourdeurs accrochées aux chevilles. J'en ai eu ma part. Mais loin d'aller chercher la beauté et l'émerveillement, un musée où je pourrais me plonger dans la pensée extatique des artistes, et pourquoi pas une cathédrale où le silence des pierres serait une source de méditation et d'apaisement, cette grandeur qui anime les cathédrales et nous fait instinctivement nous tourner vers le haut, vers ce qui nous dépasse et nous envole, pourquoi pas ? J'y aurais puisé des moments de bonheur et une énergie dont j'avais bien besoin. Mais non, j'ai souhaité m'enfermer ici. Le sentiment qu'entre ces murs, quelque chose de ce qui y est passé m'entrera dans la peau. Je n'ai pas vécu ce qu'ils vécurent, mais peut-être pourrais-je le ressentir. Lourd en jeu. C'est la première fois que j'irai à la rencontre d'êtres réels. Et quels êtres ? Jean Moulin, Raymond Samuel, Di Aubrac, René Lénaud, André de Vigny, les enfants d'Isieux, et tant d'autres. Tous sont passés par la prison de Montluc pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ordre de déportation des enfants juifs de la colonie d'Isieux et des personnes qui s'occupaient d'eux, qui seront enfermées à Montluc avant d'être déportées vers Drancy et les camps de concentration, mentionne au sujet des adultes 10 têtes, dont 5 femmes. Cet ordre est signé par Klaus Barbie. Des têtes de bétail à achever. En 5 mots, la parfaite déshumanisation des êtres. Et dans ces 5 mots, enfin, je vois mon histoire. 10 têtes, dont 5 femmes. Les esclaves, comme les juifs, étaient comptés par têtes. Eux aussi vivront ou mourront selon un implacable critère d'utilité. Assise face à la cellule où sont affichées les photos et les noms des enfants d'Isieux, Je lis leurs lettres. Je lis « Quand il y a de la neige, on va faire la luge sur les pentes. Pour Noël, on a mangé des pains d'épices, du chocolat, de la pâte de coin. On a bu un ovomaltine. Je suis contente d'être là. Je t'envoie des milliards de baisers. » Les enfants, oui, ces enfants-là, devraient jouer à cloche-pied, à la marelle, à saute-mouton, à des jeux qu'ils inventeraient avec la merveilleuse lesteté mentale des enfants, utiliser à la place des osselets des petits cailloux qu'on lance et qu'on tente de rattraper sur le dos de la main. Les cailloux picotent la peau, mais témoignent de l'adresse merveilleuse des petites mains. L'air devrait être rempli du tintement de leur rire, de la mélodie infuse de leur voix, de cette légèreté brève et sublime qui semble pouvoir faire s'envoler le corps des enfants. Mais pas se retrouver ici, dans ce gris, ce plomb, ce froid, le silence moisi des murs nus et celui de la nuit infinie. Je regarde les visages des enfants des yeux sur la photo. Une explosion de sourires, de rires. On sent que certains sont même au bord du fou rire. Les copains à l'arrière se tenant par les épaules, les fillettes en jupette, jambes sagement repliées à l'avant, mais non moins rieuses. Encore un instant, captez-la, juste avant, instant d'irrésistible joyeuseté. On ne peut que sourire en les regardant, ou plutôt, on ne pourrait que sourire si on ne savait pas. Un instant où eux ne savent pas encore, ou plutôt tentent de ne pas savoir. Nous sommes là, ici, en ce temps-ci, et nous savons. Et eux, sous le soleil, dans les herbes assis, baignés de lumière et de rire, ils ne savent pas encore. Ils restent des enfants. Ils sont dans une colonie, cela ressemble à une colo de vacances. Il y a une sorte de normalité dans la normalité. Ils abandonnent le temps d'une photo, le temps d'un interlude dans ce lieu rassurant toute inquiétude. Miracle de l'enfance, l'instant présent. Et ils sourient fort, de la bouche, des yeux, du nez, du corps. Et ils oublient aussi parce que les enfants, ça oublie. Même au plus trouble de la tempête, ils ont cette capacité, heureusement pour eux. Sinon, comment auraient-ils pu survivre? Comment auraient-ils pu sourire, ne fût-ce que pour un jour, une heure? Les petits pleurent la nuit, les grands les consolent. Ils peuvent survivre s'ils sont entourés d'adultes bienveillants, et à Isieux, ils le sont, les adultes, puissamment protecteurs. Ils sont le dernier rempart. Peut-être ces adultes espèrent-ils, alors même que l'espérance est si traître, que la guerre finira bientôt, que les enfants seront saufs, qu'ils demeureront dans cette entr'acte dorée entre ces arbres illuminés, dans cet espace si vert comme frappé de langueur, comme s'ils étaient parvenus à créer ici un havre où la guerre serait devenue impossible, improbable, tenant à distance la sauvagerie, la barbarie. L'enfance, de par sa magie propre, pourrait, pendant ce bref temps à Isieux, exorciser le mal. Comme dans cette autre colonie où un petit garçon de 4 ans se réfugie dans une niche en disant « Je suis un chien, on ne déporte pas les chiens. » Non, on ne déporte pas les chiens, mais les enfants, oui. Et les murets moussus, et les épicéas au tronc mince, et les chênes au tronc crevassé ne peuvent rien contre les tombes, contre les bombes et les balles, et rien non plus contre le camion qui viendra les prendre pour les transporter à Montluc. Ils y passeront une nuit, 44 enfants terrorisés. Non, la magie n'opérera pas à Isieux. Le village entrera dans la nuit avec pour seule mémoire l'effroi. Isieu aura un bref temps renfermé en son écrin la pure joaillerie des enfants et entrera à jamais dans la gueule broyeuse de la machine de haine, effaçant les rires de cette photo ou les transformant en grimaces car un tel bonheur ne pouvait exister, ne pouvait voler autant son droit de résister, ne pouvait ménager dans l'horreur une trouée, une voie dérobée, une porte secrète où ils disparaîtraient tous, riant très fort, riant jusqu'à en avoir mal au ventre, en faisant des pieds de nez aux monstres de beauté qui viendraient les chercher. Mais Klaus Barbie ordonnera leur rafle et leur déportation, et personne ne s'opposera aux soldats descendus du camion. Un à un, les sourires s'éteignent, les rayons dans les yeux, sur les bouches. La nuit est tombée sur Isieu, la nuit passée à Montluc. Alors, mur, qu'avez-vous entendu cette nuit-là? Le chant estropié de l'enfance, des pleurs et des gémissements ou le silence de la résignation? Sentez-vous encore ce petit corps tassé contre vous, une petite main dont la paume s'est imprimée sur votre froide surface? Dans leurs brefs sommeils interrompus, avez-vous vu fuir les anges? Que les prédateurs aient été allemands ou français, comment comprendre cet impossible? Au cours de cette nuit, je reviendrai plusieurs fois ici, regarder leurs visages, ces sourires d'avant et leurs noms. Mon esprit vacille face à cette réalité impossible à appréhender depuis une simple humanité. Ils ne les voyaient pas comme appartenant à la même espèce. Protéger les enfants ou les conduire à l'abattoir, opposer nos corps aux tirs, aux trains, aux fours, ou les livrer à la gueule massacreuse, le balancier oscille pour l'éternité. Je pose ma main sur le mur, je prie, sans mots, sans Dieu, mais pour quoi faire? Il n'y a eu ni rachat, ni pardon en leur dernière heure, ni des hommes, ni des dieux. Minuit. André de Vigny, lui, le seul résistant évadé de Montluc, est dans ce temps d'une terrifiante élasticité où tous attendent la mort sans savoir quand elle viendra. Alors il fera tout pour s'échapper, préférant être le kamikaze qui choisit sa mort plutôt que l'animal conduit à l'abattoir. Son ingéniosité est infinie. Il exploitera la moindre faille, la plus infime des possibilités, jusqu'à finir par trouver une porte de sortie. Par les toits, là où les verrières laissent entrer une lueur pâle et nue l'hiver et des flots rageurs l'été. Il grimpera, il se fera funambule, acrobate, singe habile et agile, se hissant sur des cordes tressées avec tous les matériaux qui lui sont accessibles et crapahutant sur le toit de la prison pour enfin s'envoler, lui qui n'a jamais cessé de regarder le ciel. Il n'a jamais consenti à se plier, à courber les chines, à accepter la défaite. Tout était clair dans son esprit, son engagement de résistant et sa foi en la liberté. Cette ambition méritait tous les risques et les plus douloureux des sacrifices, écrit-il. combat jamais fini, toujours recommencé, comme lorsqu'il parcourt la nuit en traversant une ouverture patiemment pratiquée dans sa porte, les galeries vides mais non silencieuses, puisqu'il perçoit les bruits des corps, les remous des blessures, le froissement des rêves, la langue de la nuit. Il se sent leur compagnon à tous, ose effleurer les portes verrouillées, frappe même légèrement sur certaines pour murmurer un mot, un encouragement, presque inaudible, laissant ainsi dans son sillage, dans une sorte de recueillement stupéfait, tel un songe lumineux, quelque chose qui peine à exister entre ces murs, l'espoir. De Vigny devient ainsi une sorte d'ange hantant la prison, et ils l'attendent chaque nuit, le souffle court, l'âme craintive. S'il se faisait prendre, s'il avait déjà été surpris, s'il ne revenait pas, comment ferait-il alors? Qui leur offrirait ces brèves étincelles, ces minuscules déflagrations de vie? Et lorsqu'enfin ils l'entendent, un soupir les fait trembler. Il est là, il est là. Ainsi observe-t-il les aménagements, son œil précis de menuisier évalue les hauteurs, les distances, les résistances, comprend les mécanismes d'ouverture des verrières au plafond. Est-elle une souris de laboratoire dans son labyrinthe? Il apprivoise les dédales et les impasses, apprend à contourner les obstacles, à s'insinuer dans le moindre interstice, en silence, toujours en silence, comme si tout son corps était fait de velours. Il prend son temps, il endort la méfiance des gardes, échappe à leur vigilance. Il rumine, il observe, il longe la galerie et absorbe la sève des prisonniers pour conforter sa foi et son énergie. Son corps est douloureux, mais si clair son esprit qu'il rayonne. Comme une oraison, il répète, les vasistas sont ouverts grâce à ce système de tringlerie à rotule, là, juste devant ma cellule. Celui-ci est actionné par une manivelle à hauteur d'homme. Les mots les plus prosaïques deviennent poèmes. Verrières et vasistas, tringlerie, rotule, manivelle mobile, hauteur d'homme. Mais quelle est la hauteur de l'homme en ce lieu? Certains sont grands, si grands, géants d'ombre et de sang. Et d'autres petits, si petits, rampant dans les glaires que dégagent leurs victimes. La hauteur d'homme pour lui sera la hauteur de la démesure. Deux cordes de 10 mètres chacune qu'il lui faudra fabriquer pendant des nuits et des nuits, avec la constante terreur que demain le conduira à la mort. Des cordes faites avec la paillasse, la couverture, la serviette, le linge de corps, la chemise, solidement, et sans qu'on remarque leur lente disparition, leur transformation en aile. Mais ici, il n'y a pas que des murs. Il y a aussi à Montluc un autre espace de quelques mètres carrés, celui dont on ne sait pas exactement où il se trouve, rien n'indique son emplacement. Mais on pense qu'il se trouvait à l'extérieur du réfectoire ou des cuisines. S'il était marqué d'une quelconque manière, on se tiendrait devant un trou noir, de ceux qui happent la lumière et ne laissent rien échapper, y compris les âmes. La gravité serait trop forte en cet endroit pour que l'on puisse fuir. C'est là où se monter et se démonter rapidement, le plus rapidement possible, juste le temps de faire œuvre d'anéantissement. Une guillotine. Elle devait être facile à monter et à démonter pour éviter les émeutes. Elle pouvait aussi être déplacée, c'est pour cela que l'on n'en connaît pas l'emplacement exact. Alors, que faire? Marcher dans la cour de la prison à la recherche d'un trou noir? Non, je ne le ferai pas. Il suffit de savoir qu'il est là. À Montluc, 11 Algériens détenus pendant la guerre d'Algérie furent guillotinés jusque dans les années 60. Nombre d'entre eux étaient des détenus politiques arrêtés pour leurs convictions ou leurs actions pendant la guerre d'indépendance. Les détenus politiques ne devaient en principe pas être condamnés à mort, mais ils le furent. Un article du journal L'Aurore, datant du 4 août 1960, et parlant de ces exécutions, précise que même les nazis ne confondaient pas politique et droit commun. Indifférence, voilà le mot d'ordre pour la plupart des Français actuellement, dit l'article, qui poursuit lâcheté aussi. Osons le dire, nous sommes des Ponce Pilate. Les horreurs ne nous concernent pas. Il suffit de bien leur tourner le dos, de bien fermer les yeux, de bien nous boucher les oreilles et les yeux. Aujourd'hui, par hasard, continue le journaliste, je suis passé devant mon Luc. Tout à côté, dans de grands immeubles, des gens vivent. Je veux croire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne voient pas. Et je sais bien qu'ils savent, que nous savons tous, même si nous ne voyons pas. Cette phrase « les horreurs ne nous concernent pas » est encore terriblement d'actualité. Le journal La Défense écrit que le dernier Algérien exécuté en France s'appelait Salah Delil. Sa tête est tombée le 31 janvier 1961 dans la cour du fort Montluc à Lyon. Il avait 33 ans. Dans un livre intitulé « La grève de la faim, journal d'un détenu politique algérien » publié en 1962, Salah Khalef écrit un poème intitulé « Lyon, la complice ». Dans la cour de la prison inutile, le vieil échafaud n'en finissait pas de verdir. Un homme y monta qui me ressemblait comme un frère, que j'appelais mon frère et qui ne tremblait pas. Le soleil et le sang rougirent en même temps. La prison s'emplit d'hymnes de féroce espérance et d'allégresse comme un étendard éployé. Pour celui que le couperet venait de rendre à la nuit, la lumière était ailleurs, loin, très loin de Lyon, au-dessus du Djebel Amour. Je te vois debout, mon frère. Je te vois debout dans le matin calme et froid. Je te vois attentif et lucide. Je te vois debout, mon frère. Trois heures, ainsi se prolonge la nuit, car quand on est là, on n'en voit plus le bout. Elle s'étire comme ce chemin de ronde qui ne s'interrompt plus. C'est la longue nuit du silence, la longue nuit de l'absence et de tous ceux qui, ici, n'ont plus jamais revu le jour. Voyez-vous, c'est à cela que nous savons que nous avons fait fausse route. Chaque guerre, depuis toujours, a été une contagion. Nous avons porté en nous le virus, et il a muté, et il s'est intensifié. Il ne dort plus, il passe d'un endroit à l'autre, d'un homme à l'autre. Il se démultiplie, foudroyant, dans notre sang. Nos cerveaux en regorgent. On ne le voit pas au scanner, au rayon X, à l'échographie, au microscope, mais il est là, invisible. Notre malédiction, notre legs, notre héritage, ce virus comme le souffle. Il suffit d'une étincelle. Pendant ce temps, des enfants quelque part jouent à la guerre et quelque part d'autres meurent de la guerre. Chaque guerre appartient à tous les hommes, mais la paix, elle, ressemble de plus en plus à une lointaine illusion. ,6h30, je regarde ma montre. Encore une heure avant ma libération. La prisonnière d'une seule nuit est presque libre de partir. Je savais que cette nuit serait difficile. Je ne savais pas ce qu'elle m'apporterait, comme si l'écriture ne suffisait pas. Mais l'écriture ne suffit pas. J'ouvre les yeux sur un monde vieux, un monde nu, un monde où la pitié est un vain mot. Je me sens triste et étourdie. J'ai à la fois envie de fuir et de rester pour mieux comprendre. Je me rassieds, je me rassemble, je pense au monde entre les murs et à l'heure de ma plus grande solitude. Je finirai seule comme nous tous, quel autre lieu peut mieux me le signifier? Ici, j'ai l'impression d'avoir rencontré mes monstres et mes anges, ceux qui ont peuplé mes livres, ceux qui m'ont accompagnée, imaginaire ou pas. Ceux qui brillent dans les ténèbres ou au contraire les approfondissent, les transformant en trous noirs d'où nulle lumière ne peut s'échapper. Mes monstres et mes anges, non, ces mots ne sont pas justes. Ce que j'ai vu ici, c'est la mesure de l'homme, ses choix d'existence, son libre arbitre, sa volonté d'être, de compter, chacun face à son ombre, à sa flamme, à ses démons, à ses offrandes. La fiction permet de démarquer les victimes et les bourreaux, mais la vraie vie, les décisions sont-elles jamais simples? N'est-ce pas dans ces moments-là que l'on démontre le véritable courage? Nous sommes des hommes et des femmes ordinaires, dirait-il, qui ont choisi de sauver un noyer plutôt que de l'enfoncer sous les eaux. Il y a des lieux qui vous détruisent, d'autres qui vous sont propices, d'autres encore qui vous hanteront toujours. Je ne pouvais aborder cette nuit que si je savais qu'elle me serait intensément propre, qu'elle m'appartiendrait, que je ferais mien tous ces êtres qui s'y sont succédés, qui ont vécu les heures les plus terribles de l'histoire et qui ont donné leur vie pour les autres, pour nous. C'est à la fois merveilleux et un reproche constant. Être témoin ou passeur, n'est-ce pas aussi faire acte? Je me le suis toujours demandé, mais je ne sais pas si c'est le cas, ou si c'est une excuse pitoyable pour ne pas s'engager autrement. En cette nuit sans fin, je me dis que les prisonniers de Montluc possédaient cette chose mystérieuse, une fabuleuse étincelle de vie, prête à défier la mort. Ils ne se sont pas, comme tant d'autres, retenus au regard des conventions, ou mus par des craintes enracinées, par l'attrait de l'ordinaire. À mon âge, je me dis aussi que j'aurais voulu avoir vécu comme eux, comme elles, qui ont tout défié pour se battre, quitte à mourir jeune, sans se réfugier derrière des prétextes, des faux semblants. Ce besoin stupide et incompréhensible de se conformer, de se plier aux règles. Toucher au plus vif des chairs, le centre des révoltes et des éblouissements. Parce que ici, je sais à quel point nos vies sont futiles. L'engagement, il y en a peu qui le vivent véritablement, et beaucoup. Peu à l'aune des 8 milliards d'habitants de la planète, beaucoup, car personne n'y est tenu. Ces résistants qui m'ont accompagné cette nuit, ces résistantes, ces jeunes, ces enfants à mes yeux, comment ont-ils affronté le danger? Cette question, nous devons tous nous la poser aujourd'hui, moi en premier, qui les ai côtoyés ici pour écrire un livre. Écrire, suffit-il? Je parlais de risque, de danger. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'elles ont vécu? Qu'aurais-je fait face aux conquérants? J'ai peur. L'horreur est dans cette phrase. Je ne sais pas. Là, dans cette faille terrible, se situent les monstres en nous et les anges. Moi qui suis migrante depuis mes origines, qui vis depuis toujours à cheval sur des frontières, je n'ai jamais cessé de me sentir migrante, non seulement parce que c'est une réalité, mais parce que, je ne sais plus qui a écrit cela, tout artiste est un migrateur. Chaque humain l'est aussi, dans ses rêves inexplorés. Sans cela, nous serions prisonniers d'un lieu, d'un temps, de nous-mêmes, condamnés à d'insoutenables routines. Migrer toujours, démanteler les frontières, explorer l'ailleurs, tous les ailleurs, car sans eux, l'inconnu nous terrifierait. Espèce nomade, l'homme, depuis ses origines, nulle terre ne devrait nous appartenir, et toutes, nous ne possédons que le transitoire. Nous récoltons aujourd'hui les fruits vénéneux de cette fausse route. Nous avons engendré le grand démembrement. Entre-temps naîtront de nouveaux résistants, de nouvelles violences. Des résistants avec une majuscule, ai-je envie d'écrire, parce qu'ils sont là, ils ne faillissent pas. Mais on ne les appelle pas des héros. Je me demande si on célébrera désormais le véritable héroïsme, celui qui s'insurge contre des pouvoirs impossibles à combattre. J'habite une blessure sacrée, écrivait Césaire. J'habite un voyage de 1000 ans, j'habite le pan d'un grand désastre. Nous entrons désormais dans la blessure sacrée et infinie des ancêtres imaginaires. Leur nom et leur corps étant passés par la roue broyeuse de notre belle civilisation, celle du grand désastre. Une ignominie jamais nommée, l'aveuglement qui nous gagne tous au plus fort d'un ouragan d'images. Ici, dans la prison, dans ma prison, car elle semble être devenue mienne, je sens que je l'habite, cette blessure sacrée qui transforme les nuits en combat. J'habite la ruine des clairs visages qui espèrent encore sous les bombes. J'habite la tristesse de ce vieux monde qui ne croit plus en rien et qui émiette la chair douce des enfants. Nul vol d'oiseau ne nous sauvera de nous-mêmes. Dans la nuit infinie de Montluc, des nuits s'ajoutant à d'autres nuits, le silence ne ressemble à aucun autre. C'est celui du vide, d'une noyade à bout de souffle lorsque nous comprenons enfin que cette blessure sacrée, c'est le piétinement de nos deux mains, celle où nous endossons notre fait. Et voici que face à notre propre emprisonnement derrière des murs visibles ou invisibles, nous sommes dans une sorte de léthargie, d'impossibilité d'agir, d'aller à contre-courant d'une autre menace, le péril de l'inhumanité. Celui de devenir complice par indifférence, complaisant par impuissance, comme si tout cela était irrémédiable. Les fantômes de Montluc le contredisent. Il n'y a rien d'irrémédiable dans la violence des hommes. Ni tornade, ni séisme, juste un choix. Merci.
Bonsoir, ça marche ? Oui, ça marche.
Eh bien, peut-être que pour commencer, Ananda Devi, je voudrais vous demander ce que ça fait d'entendre proclamer ce texte qui naît à ce point dans une nuit de silence. La rencontre s'appelle « Le silence peuplé de l'histoire ». Dans les dernières phrases que vous avez lues tout à l'heure, il est question d'un silence, est-ce que c'est celui d'une noyade. Et en lisant « La nuit s'ajoute à la nuit », on a l'impression que chaque mot est arraché au silence, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du silence vraiment très, très concret, qui est celui du moment où vous écrivez, et puis qui est aussi métaphorique.
Oui, merci. C'est très étrange, ce texte, parce que c'est vrai que quand je dis commencer par le vide, je ne savais vraiment pas, en allant dans la prison, qu'est-ce qui allait en sortir. Peut-être rien, c'est aussi une crainte de tous les auteurs qui acceptent de participer à cette collection, c'est de se dire, on s'engage pour un livre, pour une nuit, et si rien ne sort. Et donc, j'étais vraiment comme une page blanche, me laissant porter et aussi en essayant d'absorber ce que porte le lieu et les personnes qui l'ont traversé. Et donc c'est une nuit qui a été un voyage intérieur extraordaire. Je ne m'attendais pas à le lire à haute voix. D'ailleurs, la première fois que je l'ai fait après la publication du livre, c'était dans la prison même, avec des journalistes. Et en lisant le passage sur les enfants d'Isieux, ben, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer parce que c'était dans ces lieux-là, face à la cellule, c'était impossible de ne pas y penser. Et je me suis rendu compte que c'était aussi un texte qui avait une sorte de nécessité par rapport au moment où j'étais dans ma vie, où je suis dans ma vie, mais aussi au temps que l'on vit maintenant, à notre époque, à tout ce qui se passe. Pendant que j'écrivais le livre, j'entendais aussi les échos du monde, les échos de l'histoire, les échos des guerres, des tueries. Et donc tout ça s'est infiltré, ça a vraiment été comme quelque chose d'osmotique. Je sentais que je ne parlais pas seulement des vies de cette prison de Montluc qui a traversé presque un siècle d'histoire avec tant de violence, mais que je parlais aussi de notre époque et de toute cette réflexion sur que pouvons-nous faire face à ce sentiment d'impuissance, que veut dire l'engagement et qu'est-ce que faire acte de présence dans le monde. Et ainsi, il m'a semblé que c'était aussi important de le lire, que ce soit quelque chose qu'on écoute. Et c'est vrai que extraire ma voix n'est pas forcément une chose facile. Mais comme j'ai eu des invitations à le faire, mais aussi l'accompagnement de Dominique Mahut, qui est arrivé, on disait, de manière assez fortuite, mais merveilleuse. Parce que je sens vraiment qu'il porte le texte avec sa sensibilité et l'étrangeté de sa musique. Donc c'est comme si une nouvelle vie était accordée au texte, hors de la lecture simple de chaque personne face au silence du texte, mais là dans une sorte de, peut-être de communauté d'esprit, je sais pas, j'espère, que c'est possible de le faire passer autrement.
Vous parlez de la question de l'engagement, donc qui est centrale dans le texte. À quel moment vous avez compris, alors, et vous me direz si c'est une mauvaise interprétation de votre livre, mais moi j'ai l'impression que profondément, ce qui porte le texte, c'est l'articulation entre la présence à un lieu et la présence au monde, c'est-à-dire la présence très concrète au lieu où vous passez cette nuit et ce que ça entraîne comme présence au monde de manière métaphorique et réelle. À quel moment vous avez compris que vous alliez articuler ça comme ça ?
Je crois que c'est venu petit à petit parce qu'il fallait quand même que j'apprivoise le lieu dans ce silence, dans cette solitude qui est quand même très pesante, surtout dans une prison qui date de 1921 et qui a été maintenue en l'état. Donc elle est un mémorial, mais en fait, le lieu lui-même est un mémorial. Et j'entrais dans chaque cellule, et dans chaque cellule, il y avait une photo du ou des prisonniers qui ont été enfermés là. Et je me rendais compte que, d'un côté, on avait l'histoire qu'on connaît, qu'on a tous lue, et des personnes qui sont devenues presque des personnages, comme Jean Moulin et d'autres résistants. Et puis là, on était en présence de personnes, d'individus, d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont existé et qui sont passés par là. Donc presque, j'avais presque l'impression peut-être qu'ils ont laissé des cellules de leur peau, de leur corps en ces lieux et qu'il fallait que j'essaye de les saisir de la manière la plus intime possible. Donc ce n'était pas un livre qui avait pour ambition d'être historique du tout, mais plutôt ce besoin d'être peut-être en contact ou en communication de manière le plus proche et la plus intime possible avec ces personnes qui ont vécu, qui ont existé, et qu'il ne faut pas mettre à une distance de nous, puisque c'est la question que nous devons nous poser, justement, c'est qu'est-ce que nous aurions fait à leur place et qu'est-ce que nous ferions aujourd'hui si nous nous retrouvons dans une situation comme celle-là. Et donc, je pense que le sentiment d'engagement a toujours été là, mais l'articuler, c'était aussi c'était un autre enjeu. Ce qui a permis de l'articuler, c'était d'avoir ces heures qui passaient, que j'étais en train de dicter aussi au fur et à mesure, et donc j'avais une sorte de rythme, peut-être, d'une heure, à chaque heure qui passait, mais aussi le sentiment où la nuit vous envahit et on devient presque on entre presque dans un état second, je dirais, au fur et à mesure que la nuit passe et que on se rend compte que on peut habiter un lieu et le lieu peut nous habiter, le lieu peut devenir le monde. Je crois que ça a toujours été un peu le cas dans peut-être tous mes livres, en tout cas mes romans, où les lieux sont extrêmement importants, que ce soit des villes ou un pays. Mais là, c'était un lieu encore plus étroit. Et je dis à un moment dans le livre que moi, qui ai souvent enfermé mes personnages, ben là, du coup, peut-être que je me vengeais, ou mes personnages se vengeaient de moi en m'enfermant aussi dans un lieu aussi terrible.
Et alors, cette disons obsession, en tout cas, ou ce motif récurrent de l'enfermement, vous savez d'où ça vient ?
Non, parce que ça a commencé à apparaître avant que je m'en rende compte. Et puis, je pense que vous parliez du silence tout à l'heure, mais je crois que le silence a été quand même a fait partie de moi depuis toujours, parce que enfant, j'étais extrêmement timide et silencieuse. Je n'ouvrais quasiment pas la bouche en dehors de ma famille proche, et ni en classe, ni rien. Et je pense que cette extrême timidité, pour utiliser un mot assez banal, est ce qui m'a conduit d'abord vers la lecture, puis vers l'écriture toute jeune, presque enfant, parce que c'était le seul moyen pour moi d'exprimer toutes les pensées qui étaient dans ma tête et que j'avais besoin d'exprimer. Donc peut-être il y avait premièrement cette espèce d'enfermement dans le silence que j'avais besoin d'exprimer, mais aussi étant de l'île Maurice et que c'est une île qui n'est pas proche d'un continent, donc qui est quelque part un enfermement aussi, puisqu'on ne pouvait pas en sortir très, très facilement. Aujourd'hui c'est différent, mais quand j'étais enfant et jeune, c'était compliqué de n'en sortir. Et ensuite, je pense que mon histoire familiale, bon, je parlais de l'esclavage qui fait partie de l'histoire de Maurice, mais aussi du transport des Indiens de l'Inde pendant la colonisation anglaise pour remplacer la main-d'œuvre des esclaves après l'abolition. Ben, cette histoire familiale, elle est aussi faite de silence et de femmes souvent enfermées dans leurs conditions féminines. Et donc, je pense que tout ça, c'est un peu réuni pour m'amener vers ces situations différentes d'enfermement, mais où finalement, mes personnages, je les pousse un peu vers une quête intérieure, un peu comme la quête que j'ai subie moi-même dans cette prison, mais je les pousse vers une quête de reconnaissance d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, et de réappropriation de ce qu'ils sont intérieurement face à eux-mêmes.
Alors, vous venez de dire le mot appropriation, et on a entendu au début de la lecture que vous vous interrogez sur votre légitimité à attraper vous emparer de ce lieu qui est à ce point-là lié à l'histoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Et puis on a entendu aussi dans la lecture vous parler des têtes que comptait Klaus Barbie en demandant l'arrestation en ordonnant l'arrestation des enfants d'Izieux. Et donc c'est aussi par l'histoire de l'esclavage que ça passe. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous pensez que vous seriez posé la question comme ça de est-ce que j'ai le droit de m'approprier cette histoire ? Ou est-ce que c'est aussi la manière dont la société, quelque chose de très commun, entre dans la littérature ?
Je crois qu'à notre époque, on est quand même beaucoup exposé, en tout cas les écrivains sont exposés à ce questionnement de leur légitimité, de leur droit de s'emparer de tel ou tel sujet. C'est quand même vraiment dans l'air du temps. Et c'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser parce que c'est appliqué de manière très très tangible, par exemple par des éditeurs qui, surtout anglo-saxons, américains ou anglais, qui font relire des textes par ce qu'ils appellent des sensitivity readers pour voir si on n'offense personne. Alors, c'est curieux, parce que si un livre n'offense pas quelque part, ça ne sert pas, s'il devient trop consensuel, c'est pas trop la peine de l'écrire. Donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas une question que je me serais forcément posée quand j'étais jeune, mais même pas du tout. Mais la question de légitimité, oui, parce que finalement, avec le temps, on se rend compte qu'il y a quand même tout le temps un questionnement de soi, à la fois par soi, mais aussi par les autres, de manière tout à fait banale. Par exemple, on me pose toujours la question « Pourquoi écrivez-vous en français ?» ce qui est peut-être normal, mais qui en même temps semble me mettre face à une absence de légitimité, à une place que je prends qui n'est peut-être pas la mienne. Mais ce n'est pas seulement en France, mais quand je vais en Inde, parce que j'ai des ancêtres qui venaient d'Inde, donc mon apparence est exactement la même quand je vais en Inde, on me parle dans les langues locales, que ce soit nord, sud, est, ouest, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et quand je dis que je ne parle pas la langue, c'est comme, il y a une sorte de questionnement, ou même voire de reproche. Comment ça se fait que je ne parle pas cette langue ? Donc finalement, partout où je suis, comme je dis, je suis migrante depuis mes origines. C'est très beau d'être migrant, mais il y a aussi effectivement cette idée qu'on n'appartient à nulle part et qu'il faut se créer sa place, se trouver sa place. Et parfois, c'est évidemment très très dur, pas forcément pour moi, mais pour tout le monde. Et je pense que la question est venue très tôt parce que le lieu m'avait parlé, je l'avais déjà visité très brièvement il y avait quelques mois, et donc quand la proposition de Stock m'est arrivée, c'était comme une sorte d'évidence que c'était ce lieu-là, parce que il fallait que ce soit un lieu qui me parle, qui me bouscule, qui me bouleverse pour pouvoir écrire tout un livre après une nuit passée là. Mais je dis quand même dans le livre, j'aurais pu être allée quand même au château de Voltaire, qui est à 5 minutes à pied de chez moi, à Ferney-Voltaire. Mais j'aurais pu choisir des lieux plus heureux, mais je me connais et que je savais qu'il fallait que ce soit un lieu qui m'interpelle de manière extrêmement viscérale et profonde. Mais du coup, au moment d'entrer dans l'aventure, la question s'est posée, comment je peux m'emparer de l'histoire de cette histoire de la Shoah ou de la seconde des résistants, puisque ce n'est pas du tout mon histoire familiale. Mais effectivement, en me rappelant ce critère d'utilité et de déshumanisation des êtres, que ce soit des nazis par rapport aux juifs ou des esclaves qui étaient considérés comme des objets, même pas du bétail, des objets. Je me rends compte que les grands crimes de l'humanité font partie de notre histoire à tous et donc nous concernent tous.
Alors, la première visite à Montluc que vous avez évoquée, vous êtes terrassée par un mal de dos terrible. Donc c'est quand vous dites que vous êtes prise viscéralement, c'est-à-dire que c'est vraiment votre corps qui parle immédiatement. Et on l'a entendu au début de la lecture, vous dites ce pas pas pour entrer. Enfin, ce pas me coûtera. Est-ce qu'il y a toujours une nécessité de payer un prix, y compris par son corps ?
Oui, je pense que oui, parce que l'écriture n'est vraiment pas anodine. C'est quand même, on sait que c'est une forme d'engagement, même si je me dis toujours que ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas la seule à le dire. J'ai aussi quelqu'un de ma famille, un fils qui me reproche depuis longtemps d'être un peu, de me cacher derrière cette image un peu de celle qui parle pour les femmes, au nom des femmes, pour les victimes, etc. Mais que en réalité, je ne fais pas grand-chose. Enfin, c'est ce qu'il me reproche. Je pense que c'est une forme d'engagement, c'est sûr, mais que je ressens ce besoin aussi de m'impliquer aussi entièrement que possible dans l'acte d'écrire, mais aussi dans ce que je suis en train, dans les sujets que j'aborde et ce que je suis en train d'écrire. Et je crois que la pathologie. C'était un peu un point commun de beaucoup des écrivains qui ont passé une nuit blanche. Par exemple, Yannick Enel qui va à la rencontre de Francis Bacon et dès qu'il arrive, il a une migraine ophtalmique qui le terrasse littéralement. Et là, mon mal de dos. Et puis bon, je pense que oui, les écrivains ont un peu des pathologies. Ou peut-être le stress, la peur, j'en sais rien. Mais en même temps, c'est certain que pour moi, déjà le lieu était un enjeu, puisqu'il fallait que je l'apprivoise, apprivoise, c'est pas le bon mot, mais que j'aille à tous ces points de rupture, de fêlure, de cassure de l'histoire, y compris la baraque aux Juifs, où les Juifs, qui n'est plus là, mais qui est marquée, et où les Juifs étaient entassés avant d'être déportés ou fusillés. Et après la libération, c'est dans la même baraque qu'on va enfermer les tondus. Et donc, j'ai vu un petit film où on voyait les tondus à Lyon être transportés, et, enfin, amenés vers cette baraque, ce qui semble quelque part... un peu vertigineux, parce qu'on pense aux différentes formes de violence qui vont se succéder. Les Algériens, la guillotine, donc très peu de gens le connaissent cette histoire, mais ils ont été guillotinés là-bas, y compris un jeune homme, quasiment un enfant qui venait juste d'avoir 18 ans, et on l'a quand même guillotiné. Il y a un mur des fusillés, donc c'est un lieu de violence, en fait, c'est ça. Et la prison n'a été fermée qu'en 2009. Elle était devenue une prison des femmes. Et les femmes, on les autorisait, c'était des prisonnières du droit commun, on leur autorisait à garder leur bébé avec elles jusqu'à l'âge de 18 mois. Et donc d'imaginer aussi des bébés en ces lieux, c'est aussi quelque chose de terrible. Et en même temps, c'était un acte humain parce qu'il ne fallait pas les séparer de leur bébé. Mais les bébés entendaient aussi ces bruits, ces portes qui claquent, et l'enfermement le soir, les portes qui se ferment. Enfin, quand on imagine tout ça, c'est dans cette petite, elle n'est pas très grande, la prison, elle est en plein milieu de Lyon.
À propos vous évoquiez les métamorphoses successives de la prison qui épouse les soubresauts de l'histoire. Et puis il y a un personnage à propos duquel vous avez lu un passage de votre livre, donc le résistant de Vigny, qui après avoir été ce grand résistant, qui est celui qui a réussi à s'échapper, a moins été du bon côté de l'histoire, disons, au moment de la guerre d'Algérie. C'était important, je pense, pour vous de raconter aussi les changements de l'être humain et puis la manière dont on n'est pas au même endroit de l'histoire en fonction des périodes.
Oui, absolument, parce que en fait, on a un peu tendance à créer des héros et des monstres ou des mythologies ou des mythes autour de ces personnages historiques. Ce qui nous amène parfois à oublier que c'était des êtres humains avec leur complexité, leurs ambiguïtés. Et donc, à chaque moment, j'essaie de dire qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient des personnes comme vous et moi, et que parfois, on se trouve du bon côté, justement. Par exemple, André de Vigny, au moment de la Résistance, il a été d'un héroïsme extraordinaire. Mais après, comme il était un militaire de formation, donc au moment de la guerre d'Algérie, il se réengage et il est du côté militaire français. Et on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur comment il s'est comporté pendant cette guerre, mais quelqu'un qu'il a connu dit à un moment donné, oui, il était plutôt réac. Et semblant dire qu'il a peut-être été aussi parmi ceux qui faisaient subir des exactions terribles aux Algériens. Mais par rapport au livre qu'il a écrit de Vigny sur son histoire, sur son évasion, à plusieurs moments de ses livres, il dit qu'il pardonne encore moins les Français qui, après la libération, ont appliqué les mêmes méthodes aux Allemands que les Allemands avaient appliquées envers eux. Il dit « je leur pardonne encore moins ». Et donc, je pense que quelque part, j'aurais du mal à croire qu'il se soit livré à des tortures ou des actes de torture. Mais bon, par exemple, l'un des Algériens qui était prisonnier là, qui revient des années après pour visiter Montluc. Alors, il y a aussi un documentaire très très touchant de lui revenant et pleurant, etc. Et puis je lis donc dans les livres donc sur cette époque que en fait il était engagé en politique en Algérie et que d'autres prisonniers lui ont reproché d'avoir usurpé leur expérience dans un livre par exemple ou d'en faire enfin l'utiliser pour des besoins politiques parce qu'il voulait être élu, etc. Donc lui aussi l'ambiguïté revient là dans ce qu'il est et ce qu'il a été.
Alors, il y a même quelque chose d'assez ironique qui est que dans un passage, vous réfléchissez à cette question de l'ambiguïté des individus et de la difficulté d'avoir des vies parfaitement droites. Mm-hmm. Vous dites personne n'a de vie parfaitement droite sauf l'abbé Pierre.
Oui, oui. Effectivement, j'ai écrit le livre avant.
Alors, est-ce que vous avez des ambitions pour l'édition de poche?
Ah oui, là c'était. Mais quelqu'un me l'a fait remarquer aussi après, on disait, ah ben là, c'était pas trop.
Genre, ironie de l'histoire, c'est ouais. Parfait en fait.
Exactement, oui, oui, donc la preuve.
Alors, on va avoir un temps pour les questions de la salle, qui est important de garder. Juste, je voudrais vous poser une dernière question qui est, est-ce que. Donc, on l'a entendu, pour ceux qui peut-être ne vous avez pas lu avant, là, il y a une prose, une mélopée chez vous, il y a une place importante accordée à la poésie, mais qui est peut-être plus retenue ici que dans d'autres de vos romans, je pense au Real DS. Est-ce que le fait d'avoir ce texte qui est porté par une nécessité d'un message, qui naît aussi d'une commande, et puis qui est aussi par ailleurs un texte à la première personne, qui est une forme que vous avez déjà pratiquée, mais qui est pas votre médium favori, je crois. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'appréhender l'écriture du texte ?
Oui, absolument. J'avais très peur pendant l'écriture d'être emportée par l'écriture. Et là, je ne voulais pas que ça prenne le pas sur le récit. Même si, bien sûr, enfin, on ne se refait pas, j'étais obligée quand même de l'écrire de manière, selon ma sensibilité, je dirais, ou la musique que j'entendais dans ma tête, mais je ne voulais pas que ce soit un texte trop construit, en fait. Donc, du coup, quand je l'ai écrit, je n'ai pas énormément retravaillé le texte comme je le fais d'habitude, mais je me suis aussi laissée porter par la musique des mots, mais sans jamais qu'ils ne viennent, ne prennent le dessus sur la réelle souffrance, sur le vrai propos du livre. Donc, c'était important de rester dans ce peut-être cette peut-être modestie ou humilité plutôt par rapport à l'écriture et surtout parce que je disais je en me mettant quasiment en scène dans ce lieu-là et que je ne pouvais pas faire de moi une héroïne et donc c'était quand même un exercice assez compliqué et difficile mais en même temps oui, c'est devenu un livre extrêmement important pour moi en fait. Même en étant un texte de commande. Je crois que c'est devenu probablement un texte où j'ai pu exprimer en mon nom propre tout ce que je ressens à propos du monde, à propos de la violence, à propos de notre époque, à propos de l'homme, de l'énigme de la violence. Et donc, j'y ai mis énormément de moi-même.
Merci beaucoup. Alors, il y a un micro qui va circuler avec la personne de Monica Prosniewicz. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Écoutez, merci en tout cas pour cette découverte de ce livre. Et par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve qu'il y a à la fois vous êtes concrète, mais en même temps, Il y a quand même un lyrisme, mais qui n'est pas dérangeant, je trouve, dans vos descriptions, dans votre façon, par exemple, à un moment donné, de parler des enfants. J'ai trouvé ça très, très beau et très émouvant. Et moi, je me demandais tout simplement, pratiquement, est-ce que vous avez commencé à écrire déjà en étant sur place, ou est-ce que vous avez attendu d'en être sorti, ou est-ce que vous avez simplement, j'ai envie de dire, une trame dans votre tête peut-être et que l'écriture, il a fallu sortir du lieu pour commencer à écrire, ou est-ce que vous avez écrit à l'intérieur de cette prison?
Oui, alors comme je ne savais pas trop comment ça allait se passer, j'avais un carnet, un crayon, j'avais mon ordinateur, et donc quand je suis arrivée, je me suis assise et je voulais noter mes impressions. Et puis je me suis rendu compte que si je voulais les noter, il fallait que je reste assise et que ça ne servait à rien. Donc j'ai commencé à marcher, à déambuler dans la prison, à visiter chaque cellule. Et petit à petit, j'ai commencé à dicter dans mon téléphone, parce que comme ça, ça me permettait en même temps de déambuler et en même temps d'enregistrer mes impressions immédiates. Mais c'était assez bref et il n'y a pas eu le texte lui-même était encore extrêmement flou, il n'était pas du tout ce qu'il est. Simplement, quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite commencé à retranscrire tout ce que j'avais dicté, et comme je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que les heures me permettaient d'essayer de trouver une structure au livre en nous ramenant à chaque fois, que ce soit le lecteur ou moi-même en l'écrivant, à un moment précis, au milieu de la nuit, pendant la nuit. Et puis c'est après coup que j'ai fait plutôt des recherches. Je ne voulais pas trop avant me nourrir de trop d'informations. Et donc là, j'ai vu j'ai lu les livres de Vigny, de René Leno, un jeune poète qui lui aussi est mort à, je crois, 32 ans. Et il y a plusieurs prisonniers qui ont écrit, donc leur texte aussi permettait de retrouver quelque chose, de trouver un fil conducteur à mon livre. Et puis, et les films aussi sont devenus importants. Je parlais tout à l'heure des documentaires, mais aussi le film de Robert Bresson, Un condamné à mort s'est échappé, qui est basé sur qui est tiré du livre de Vigny et qui a été filmé à Montluc même. Donc c'est assez extraordinaire après la nuit de voir ce film. Et un film d'un réalisateur britannique qui s'appelle Steve McQueen, mais qui n'est pas l'acteur, mais le réalisateur, et qui a réalisé un film sur les prisonniers politiques de l'Irlande du Nord, qui avaient été emprisonnés à l'époque de Thatcher et qui voulaient aussi avoir un statut de prisonnier de guerre, mais qui ne l'avaient pas eu. Et donc l'un d'eux, qui était le plus connu, mais d'autres aussi, ont fait une grève de la faim. Et j'étais étudiante à Londres à l'époque, et j'avais entendu cette histoire, et que Margaret Thatcher avait refusé de céder à cette grève de la faim, et l'avait laissé mourir, en fait. Mais en redécouvrant à la fois le film, qui est extraordinairement bien fait, mais très, très difficile à voir, et en me rappelant cette histoire qui m'avait effleurée, mais vraiment de passage quand j'étais étudiante, une jeune étudiante, et aujourd'hui je ressentais vraiment le poids de cette histoire et de ces prisonniers. Et lui aussi écrivait de la poésie, en fait. Donc il y a beaucoup de prisonniers qui écrivent de la poésie.
Une autre question ? quand même en allant à la prison, vous y allez avec deux livres, voilà, un qui donne son titre à votre texte, qui s'appelle Scrabble de Michel Ferrier, et puis un autre qui est Enfant de salaud de Sor Chalandon, qui raconte le procès Barbie. Sor Chalandon, qui par ailleurs a beaucoup écrit sur l'Irlande, comme quoi tout se tient.
Ben, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez eu envie d'emporter ces deux livres avec vous en compagnon de cellule?
Je savais que Serge avait écrit... En fait, ce livre, Enfant de salaud, était sorti, je sais, Grasset, en même temps que Le Rire des déesses, je crois. Donc, on était souvent dans des signatures ensemble. Et j'avais le livre, et j'avais l'intention de le lire, mais après, on avait plein d'autres choses à faire. Donc, au moment où j'allais dans la prison, je me suis dit... surtout parce que Klaus Barbie a aussi été emprisonné, là, symboliquement, à Montluc... avant son procès à Lyon, donc pendant quelques jours ou une semaine, il a été incarcéré, peut-être pour faire face à ses propres actes. Donc je savais que ce livre-là parlait du procès Barbie, mais aussi des enfants d'Izieux. Donc je l'ai pris en me disant « c'est le lieu pour le lire ». Et par contre, le livre de Michael Ferrier, « Scrabble », je l'avais aussi, je ne l'avais pas lu, alors que j'ai lu beaucoup de ses autres livres. Je l'avais pris presque en me disant, bah, si j'ai besoin d'être consolée, parce que j'aime beaucoup son écriture, sa poésie. Et je ne me rendais pas compte que le livre parlait de son enfance au Tchad, mais à un moment donné où une guerre civile a lieu. Et donc, vers la moitié du livre, on bascule dans la guerre civile. Donc, ce n'était pas un livre consolateur. Mais du coup, il parle aussi de la nuit de la guerre. Il dit que dans un état de guerre, la nuit de la guerre s'ajoute à la nuit. Et donc, ça m'a donné le titre immédiatement. Mais donc, lire Sorge, c'était un peu entrer dans l'histoire de cette époque. Lire Michael, c'était retrouver le flux peut-être poétique... Et en même temps, sa sensibilité par rapport à ses expériences d'enfant au Tchad, mais aussi à l'expérience de la guerre vue à travers les yeux d'un enfant. Donc les deux livres m'ont beaucoup nourrie dans ce sens-là.
C'est votre dernière chance pour une question.
En français,
Oui, c'est un français, mais très hybride comme moi. Il a des grands-parents, un père qui a réunionné une autre asiatique, je crois, et puis ses parents avaient vécu en Madagascar. Et maintenant, il vit au Japon depuis de nombreuses années. Il enseigne le français à l'université au Japon. Et il a une très belle écriture. Déjà, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais aussi un engagement. Il a écrit sur Fukushima, par exemple, la tragédie de Fukushima, parce qu'il y était à ce moment-là. Donc, il raconte le tremblement de terre, le tsunami et l'explosion de l'usine, de la centrale nucléaire. Et donc, il y a des choses que je reconnais en lui, qui est proche de moi à cause de cette hybridité culturelle que nous avons tous les deux, mais aussi une passion pour l'écriture elle-même, pour utiliser les mots, les phrases, la poésie. Et voilà, donc il y a une sorte de fraternité peut-être que je ressens par rapport à son écriture.
Alors, pardon, juste avant qu'on se sépare, moi, je voudrais vous poser une question sur le rapport que vous entretenez à la nuit. Il y a des écrivains qui ont une espèce de mystique, de l'écriture la nuit, dans le retranchement du monde. Vous avez écrit un autre livre qui a la nuit dans son titre, aux éditions Bruno Dussault. C'est un livre de poésie, justement. Quel rapport vous avez avec la nuit comme écrivaine, comme femme?
Comme écrivaine, je dirais que souvent... au moment de m'endormir, par exemple, la poésie me vient souvent à ces moments-là parce qu'on abandonne un peu la lucidité et on laisse l'inconscient un peu libre cours à l'inconscient et là, des images arrivent et des assemblages de mots, des bouts de phrases, des fragments dont j'essaie de me souvenir et ne pas oublier le lendemain pour les restituer sous forme poétique. Et c'est vrai que j'ai un recueil de poésie qui s'appelle « Quand la nuit consent à me parler ». C'est vrai aussi que c'est les moments où tous les soucis nous apparaissent démesurés et que, en tant que femme, c'est vrai que j'ai des difficultés à dormir, m'endormir, parce que là, tout me revient à ce moment-là. Mais aussi, mes rêves sont souvent extrêmement, je dirais presque cohérents, mais aussi assez cauchemardesques. Mais je les utilise assez souvent dans mes livres. Et donc, j'ai un livre, un roman intitulé Le jour des caméléons, qui était sorti en 2023, et dont la partie centrale, enfin le noyau, était venu littéralement d'un cauchemar que j'avais fait où 3-4 personnes se retrouvent de manière tout à fait fortuite sur une plage, mais une plage de l'île Maurice, mais pas du tout une plage idyllique, mais vraiment une plage glauque et mal famée, et que cette rencontre fortuite va entraîner une sorte d'explosion sociale, enfin de guerre, en fait, dans mon rêve. Et je me suis réveillée en me disant, il faut que j'écrive cette histoire. Et du coup, je l'ai écrite sous forme de roman ou de nouvelle, parfois. Donc oui, la nuit est extrêmement riche, parfois tourmentée, très souvent tourmentée, mais très porteuse, c'est certain.
J'espère que la prochaine sera bonne.
Merci beaucoup à Ananda Devi, merci beaucoup à Dominique Mahut, merci à vous et bonne soirée.